Causerie de Roger Lemann, 12 avril 2011, sur Radio Silence. Bible, liturgie et Magnalia Dei. Bonjour chers amis de Radio Silence. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril. Veuillez excuser la rupture du rythme de nos causeries due à des événements extérieurs. Bible, liturgie et Magnalia Dei, avions-nous intitulé ces diverses causeries. Jusqu'ici, nous nous sommes surtout intéressés à la liturgie. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le dernier terme, Magnalia Dei, c'est-à-dire les grandes œuvres de Dieu, du latin magnus, grand. On peut également retenir les Mirabilia Dei, les merveilles de Dieu, expression que l'on rencontre souvent dans la Vulgate. La Vulgate est la traduction de la Bible en latin par saint Jérôme au IVe siècle après Jésus-Christ. Par exemple, Exode chapitre 15, verset 11, Daniel chapitre 3, verset 99, Isaïe 64, 3, Job 5, 9, Psaume 9, verset 2, etc. Je m'inspirerai ici du livre du cardinal Danielou, Essai sur le mystère de l'histoire, qui date de 1953. L'histoire sainte est l'histoire des grandes œuvres de Dieu. Ce sont ces grandes œuvres, ces Magnalia Dei, que nous devons décrire. Cette description est l'objet même de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une histoire, le document des grandes œuvres de Dieu. La lecture de la Bible nous introduit peu à peu dans les mœurs du Dieu vivant, dont les voix déconcertent les nôtres, parce qu'elles sont l'expression d'une puissance, d'une sagesse, d'une miséricorde qui dépasse infiniment ce que nous pouvons concevoir. Les caractères de l'action divine sont multiples. Arrêtons-nous à la catégorie de la création. Le mot hébreu « bara » désigne l'action divine, quel que soit son objet. Il fait partie de la langue proprement religieuse. Il pourra s'appliquer à la création du monde, à l'élection d'Israël, à la résurrection du Christ, au baptême chrétien, etc. Toutes ces actions sont des œuvres créatrices. De même, en est-il de l'Alliance, la Bérite, B-E-R-I-T-H, dont l'objet principal est l'engagement par lequel Dieu dispose en faveur du peuple élu, de façon définitive, des biens qui sont les siens. La régularité du cycle saisonnier est déjà l'expression d'une première alliance fondée sur la fidélité de Dieu aux promesses faites à Noé. L'incarnation de Jésus-Christ sur la nouvelle et définitive alliance, par laquelle un lien désormais irrévocable existera entre la nature divine et la nature humaine. Autre caractère, la justice de Dieu, le tzedek, qui n'est pas comme la justice humaine, laquelle implique que l'homme a des droits, exige d'être traité selon ses droits. Il est clair que si c'était selon cette justice qu'on devait juger du monde, un monde où les enfants souffrent, un monde où les innocents sont opprimés, ce monde serait un monde injuste. L'homme aurait le droit, comme le fait Albert Camus, de citer Dieu à son tribunal et de le condamner. Mais du point de vue de Dieu, rien n'est dû à personne. L'homme n'a pas de droit à faire valoir. La justice de Dieu, c'est la manière dont il tient ses engagements, dont il réalise ses promesses. Il est peut-être préférable pour nous d'être traités par Dieu selon la justice qu'il se rend à lui-même, en faisant honneur à ses engagements, plutôt que selon les titres que nous aurions à présenter. L'amour, enfin, est la suprême révélation du Dieu biblique. Il s'exprime objectivement par l'établissement d'une communauté stable entre Dieu et son peuple, que l'Écriture désigne du mot « Hesed », H-E-S-E-D. En ce sens, le Cantique des Cantiques, l'un des 72 livres de la Bible, donne son fondement biblique à la théologie de l'Église, épouse du Verbe. Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule Église? C'est parce qu'il est de l'essence de l'union nuptiale d'être monogamique et que dès lors, si l'Église n'était pas une, le fait qu'elle soit l'épouse du Verbe n'aurait aucun sens. Tous ces aspects sont essentiels. Toutefois, nous en retiendrons ici un autre, qui est celui où la transcendance de Dieu apparaît de façon plus frappante à l'intérieur même de son action dans l'histoire, celui de la colère. Et combien nous comprenons que dans le monde d'aujourd'hui, celui de la société où la loi de l'État se place au-dessus de la loi naturelle, celui de la culture de mort face à un Dieu qui est la vie, la colère de Dieu ait lieu de se manifester. Reportons-nous au cantique du prophète Habacuc, chapitre 3. Habacuc est l'un des 12 petits prophètes. Habacuc est un autre des livres de la Bible. Yahvé, j'ai entendu ce que tu as fait entendre. Je suis saisi de crainte. Ton œuvre, fais-la connaître. Dans ta colère, souviens-toi d'avoir pitié. La majesté de Dieu a couvert les cieux et la terre a été remplie de sa gloire. C'est un éclat comme la lumière du soleil levant. Des rayons partent de ses mains. Là se cache sa puissance. Devant lui marche la mort et la fièvre brûlante est sur ses pas. Il s'est arrêté et a fait trembler la terre. Il a regardé, a secoué les nations. Les montagnes éternelles se sont brisées. Les collines antiques se sont affaissées. J'ai vu dans la détresse les tentes de Cushan, les pavillons de la terre de Moab frémissent. Est-ce contre des fleuves que Yahvé s'est irrité? Ou bien est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se déchaîne ta fureur? Lorsque tu montes sur tes chevaux, sur tes chars de délivrance? À nu, ton arc se découvre. Tes traits sont les serments que tu as prononcés. En torrent, tu fends la terre. Les montagnes t'ont vu et tremblent. Une trombe d'eau a passé. L'abîme a fait entendre sa voix. Il tend ses mains vers le haut. Le soleil et la lune sont restés dans leur demeure. On marche à la clarté de tes flèches, à la lueur des éclairs de ta lance. Image guerrière, à nu ton arc se découvre. Image de catastrophe cosmique, les montagnes qui s'effondrent, l'océan qui déborde, images de catastrophes historiques, il a secoué les nations, images qui nous paraissent bien correspondre aux événements que nous vivons en cette année 2011. Il s'agit donc d'une marche triomphale de Yahvé à travers le monde entier, qui est à la fois présentée comme une marche triomphale à travers les nations et comme une marche triomphale à travers les éléments. En tant qu'il marche à travers les nations, Yahvé est présenté comme une armée en marche. Et en tant qu'il traverse les éléments, il est présenté comme l'orage, la régularité du ciel, la dureté du rocher, l'immensité de la mer, la violence de l'orage apparaissent comme des sortes de reflets visibles des réalités invisibles. Mais parmi ces hiérophanies, l'orage est une des plus constantes et des plus évidentes. Ici, ce que nous fait atteindre l'image de l'orage, c'est la colère de Yahvé. Nous avons tendance à opposer le Dieu d'amour du Nouveau Testament au Dieu de colère de l'Ancien. Mais, comme le remarquait déjà Tertullien, l'amour est aussi dans l'Ancien Testament et la colère dans le Nouveau. Il faut donc en prendre notre parti. La colère est une des attitudes du Dieu biblique. Le Christ s'est mis en colère contre les vendeurs du temple. La colère est la réaction d'une sensibilité saine devant tout ce qui est vil, bas, mesquin. Ainsi, le Christ ne supportait pas qu'on fît de son temple une maison de commerce, qu'on imposa aux autres ce qu'on ne pratique pas soi-même, qu'on scandalisa les enfants. Ainsi, la colère n'est-elle pas le ressentiment d'un amour propre blessé? Elle est le refus de pactiser avec ce qui ne saurait être admis, et ainsi, en Dieu, elle est l'expression de son incompatibilité avec le péché. Il en est de même de la jalousie. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car Yahvé a pour nom jaloux. C'est un Dieu jaloux, lisons-nous dans l'Exode, chapitre 34, verset 14. Le livre d'Osée, un autre livre de la Bible, est rempli d'une succession de manifestations de l'amour passionné, de la jalousie, de plaintes contre l'infidélité. mais chez Osée, comme chez tous les prophètes, la dernière parole est toujours une parole d'espérance, parce que l'amour du Seigneur est plus fort que toute infidélité de l'homme. Ces expressions, toutefois, choquent nos pudiques oreilles modernes. Plus même, apparemment anthropomorphiques, ce sont celles peut-être qui contiennent dans leur noyau la charge la plus dense de mystère qui nous aide à pénétrer le plus ce qu'est la transcendance divine. La colère et la jalousie pour l'homme sont certes des péchés. On comprend dès lors le scandale quand on les voit attribués à Dieu. Pourtant, la colère et la jalousie sont des passions, des créatures de Dieu, bonnes en soi. Dans un monde qui perpétuellement se détourne de lui, Dieu rappelle parfois violemment son existence. Cela élimine de la colère et de la jalousie toutes les mesquineries et n'en retient que cette idée d'une intensité d'existence à laquelle absolument rien ne résiste. C'est ce qui fait la valeur de pareilles expressions. On n'oubliera pas cependant que Yahvé est un Dieu d'amour et de miséricorde. Retenons la parole du cantique d'Habacuc : dans ta colère, souviens-toi d'avoir pitié. Finalement, on peut dire que rien n'exprime mieux ces sentiments divins que le mot du Christ à Sainte Catherine de Sienne : je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. Nous nous sommes arrêtés à un texte. C'est toute l'Écriture qu'il faudrait citer. Elle nous révèle qu'il y a un mystère, c'est-à-dire un contenu caché de l'histoire. C'est dans ce mystère que les prophètes ont été introduits par l'Esprit, qui est à la fois celui qui accomplit l'histoire et celui qui la fait connaître. Ce mystère est celui des œuvres de Dieu, œuvres de création, de jugement et de rédemption, qui constituent la réalité véritable cachée derrière les apparences. Nous sommes donc ici au cœur de la théologie chrétienne de l'histoire. Mais cette histoire que Dieu accomplit pour l'homme, il ne l'accomplit pas sans lui. Nous arrêter au Manialia Dei serait ne voir qu'un aspect des choses. En face d'elle, il y a la réponse des hommes. La Bible nous la décrit semblablement. Nous tenterons de l'évoquer une prochaine fois.